la crise nous donne les évangiles de Saint Jean, quoi. À partir de maintenant, c'est l'évangile de Saint Jean. Saint Jean, il a le visage de Joseph en lui, quoi. Il a le visage de Marie en lui. Il a le visage de la... Il a tous les visages du roi, le visage de l'enfant, le visage du berger. Il porte tous ces visages. Si on ouvre la bouche, aspirer, aspirer, en aspirant large de la bouche. La bouche largement ouverte, les yeux vers le ciel. En aspirant, en aspirant, en aspirant, en aspirant, en aspirant la divine et éternelle volonté de Dieu, du Père. Alors, si tu ouvres ta bouche, c'est le psaume de l'aude de ce matin. J'aspire à soif, fait tes volontés, psaume 118. Ça fait tout penser à un autre psaume qui dit la même chose. La bouche largement ouverte, les yeux vers le ciel. Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai de la fleur du froment et du miel du rocher. Tu aspires le soleil brûlant la divine volonté du Père. Alors à ce moment-là, tu as les capacités de recevoir le fruit, la fleur du froment. L'Eucharistie, quoi, de la faim, et puis le miel du rocher. Sortant donc du rocher, c'est plus l'eau jaillissante dans le désert. L'œuvre d'eau jaillissante de la grâce n'est plus le sang, le dernier goût de sang, c'est le miel là, du rocher. C'est la Jérusalem dernière qui fait jaillir des flots surabondants du Saint-Esprit en lui-même, en nous. Et pour ça, il y a l'Église se perd complètement à l'intérieur de Saint-Joseph caché dans le sacerdoce éternel de Jésus et dans le sacerdoce terminal de Jean de l'Église. Et en fait, la médiation et la fécondité, sa fécondité avec Marie dans la sainteté de l'Eucharistie, la sainteté, c'est-à-dire le terme point terminal, terminant, final, glorifiant. Il nous appelle toujours, on se réfugie toujours en lui, et du coup il nous dépose là, un peu comme on a déposé Jonas dans le ventre de la baleine, tranquille, on le dépose là. Certaines traductions qui disent à propos de Saint-Pierre qu'il est le fils de Jonas, et d'autres qui disent le fils de Jean. Et dans le sein de la baleine, les entrailles extraordinaires qui nous déposent sur le sol solide de la résurrection. Au bout de 3 jours, c'est toujours lui, hein, l'Église est toujours tendue, enfin, je veux dire, toute, chacun d'entre nous, en portant, dans la mesure où le cœur largement, le fond du cœur largement, la mémoire largement ouverte à la présence de l'humanité tout entière, nous pénétrons dans la coupe, dans Saint-Joseph, johanniquement révélé dans l'Apocalypse. Nous sommes l'Apocalypse. Notre corps originel en Saint-Joseph, c'est l'Apocalypse du monde nouveau. Nous sommes l'Apocalypse, toute l'humanité est pénétrante en nous et nous pénétrons dans la gloire, dans la lumière de gloire de la nature humaine tout entière. C'est une autre nature, on le disait, on le pense toujours, on le sait. Et la nature humaine déclore qu'elle sait qu'elle a déjà trempé dans la lumière de gloire de la vision béatifique. Dans sa nature créée, il y a quelque chose du corps, il y a quelque chose de l'âme. Saint-Joseph, il est ressuscité, c'est une joie, c'est une allégresse pour la nature humaine tout entière. Il est rentré le premier dans la vision béatifique. Et alors, il faut voir, il y a une montée qui se fait. Saint-Joseph nous projette dans les plus grandes profondeurs de lui-même. Il nous projette dans l'Apocalypse. La joie, la réditation. Vous voyez, quand même, le premier, l'Église de tout de suite, immédiatement, la dernière, la fin du livre d'Isaïe, 66 chapitres du prophète Isaïe, se termine par cette révélation que, et voilà, si tu ouvres la bouche, tu aspires et tu rentres et tu. Et c'est le miel du rocher et la Jérusalem de la terre, hein, tu es sur la terre, mais tu n'es pas fini. C'est une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, une nouvelle cité, une nouvelle grâce, une nouvelle. Et voilà, le mal a disparu. Hein. Et la responsabilité, la vie, la joie, les restes, le péché. Il n'y a plus. La jeunesse ira jusqu'à 100 ans. Notre jeunesse, à l'âge de 100 ans, ce sera la période de notre jeunesse. 10 à la puissance de 1. C'est la paternité de Dieu dans la transverbération. Fera notre jeunesse. Et celui qui mourra moins, eh ben, sera considéré comme un méchant, enfin, comme un méchant misé. Ben, ce sera un peu une malédiction de mourir, pas mourir à ça. Enfin, je veux dire, de ne pas vivre ces 100 ans et au-delà. Et les enfants conçus ne mourront pas. Non seulement il n'y aura pas d'avortement, bien sûr, mais tout ce qui est conçu arrivera à terme. Et dans la Jérusalem dernière, arrivera à terme et puis sera pris précisément dans cette allégresse. Et l'Église, donc la vigne, donnera son fruit. Et on nourrira tous les fruits de la Jérusalem, du sacerdoce, du baptême, de l'onction extrême de l'Église. C'est l'onction extrême de la fin de toute l'Église. Et on en vivra tous ces fruits. C'est merveilleux, hein. C'est vrai, la fin du chapitre d'Isaïe, la fin du livre d'Isaïe. La lecture d'aujourd'hui et que Saint Joseph, quand il s'en va, il fait redescendre vers nous la Jérusalem qui vient. Et donc il est toujours là. Il est toujours là. Et dans l'Église nous donne aussi aujourd'hui. Il y a quelque chose de très important à entendre. Parce que si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne l'entends pas. Mais non, il nous donne quelque chose d'aujourd'hui à entendre. Et pour aller dans les 14 derniers jours de ce carême, voilà ce chemin de croix descendant, quoi. Ces 14 stations, ce chemin de croix avec Saint Joseph, hein, qui correspond tout à fait aux 14 derniers chapitres de l'Apocalypse, où c'est Saint Joseph qui descend vers nous à partir de l'épousée et de l'Esprit Saint qui dit viens et qui descend jusqu'à nous à la rencontre de l'ouverture des sept zones d'Apocalypse. La rencontre d'ailleurs, cette descente des 14 derniers chapitres avec la montée comme ça des 8 premiers chapitres de l'Apocalypse font une espèce d'explosion, les 7 tonnerres. On ne peut même pas dire de quoi. Qu'est-ce qui se dit là quand tu n'écriras pas ce que disent les sept tonnerres. Nous sommes l'Apocalypse. En rentrant dans Saint-Joseph et la Sainte, dans la croix glorieuse, si notre corps est intériorisé, si nous percevons ce que nous sommes intérieurement et réellement dans notre lumière personnelle, du oui, alors c'est l'Apocalypse qui s'inscrit. Vraiment extraordinaire, hein, ces 14 jours qui viennent là devant. Là. C'est vraiment les 14 jours de l'Apocalypse de Saint-Joseph, vous voyez ça. Et alors, donc l'Église, elle nous donne aussi à méditer aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on lit dans l'office de matine, en fait, le livre de l'Exode. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Exode, c'est chapitre 8, c'est facile à se rappeler, 8, et puis chapitre 16, puis chapitre 19. Ça, c'est aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que dans le chapitre 8, on voit effectivement la première fois que Moïse, c'est-à-dire le buisson ardent de l'Immaculée Conception, Moïse représente le puissant, non, la présence réelle du puissant. Moïse dans le temple de l'attente de réunion, dans l'attente où le Messie lui parle, lui donne ses lames de feu qui pénètrent de l'intérieur, le rocher de notre corps humain, pour en faire la Bible de Dieu, l'Évangile du Fils et l'Apocalypse du Saint-Esprit. Eh bien, quand ce miracle de conception rentre dans la tente et consacre et se consacre elle-même, c'est-à-dire se perd et est changé dans le sacerdoce, le premier sacerdoce, ça c'est chapitre 8. Les livres de l'Exode, il faut le lire, c'est incroyable. Une fois qu'il a été oint, il a reçu l'onction de la Jérusalem parfaite, réelle, elle-même. Alors là, ils sortent de la tente de la réunion, du Saint-Destin, ils sortent du Saint-Destin, de la paternité déployée de Dieu. Et aussitôt, ils se présentent devant le peuple. Et aussitôt, la gloire se montre à tout le peuple de Dieu. Sortant du temple, alors que là, on avait... Eh bien, 8 chapitres suivants, c'est aujourd'hui, on retrouve à nouveau... Dans l'Exode, ce que l'Église donne à nous nourrir pour descendre, c'est encore à nouveau le premier sacerdoce. C'est extraordinaire, n'empêche, pour nous, qui descendons à l'heure, à l'instant même où Jésus meurt sur la croix, l'Immaculée vient se consacrer vers son onction dans le sacerdoce de Johannique. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est toute la gloire de Joseph qui peut s'ouvrir à la face de tout le peuple, de la nature humaine tout entière. C'est ça que ça veut dire, chapitre 8 de l'Exode, donc c'est bien. Mais là, au chapitre 8, chapitre suivant, eh bien, c'est à nouveau une prophétie, une révélation sur le premier sacerdoce. Le sacerdoce primordial, le premier à avoir reçu le sacerdoce dans le fond des délices de l'Eucharistie, on sait très bien, c'est le disciple que Jésus aime. Et qui là, il vient de le donner à sa mère, et il vient consacrer cette offrande, cette unité avec elle. En inspirant son esprit, l'Esprit Saint dans cette union entre Marie et sacerdoce, qui est le sien, et qu'il va établir grâce à Saint-Joseph. Et alors, donc, chapitre 16, on voit à nouveau Aaron, le premier prêtre, puis le rite qu'il doit faire. Alors, si vous avez l'occasion, si on a l'occasion, ceux qui peuvent, ils lisent l'office de Matine d'aujourd'hui. C'est extraordinaire, parce que Origène, par exemple, dans la méditation de ce matin, qui est donnée à toute l'Église, et que chaque prêtre doit avoir médité, intégré, assimilé et pénétré pour en vivre, dit voilà que Origène, il explique ça. Il explique ce qui se passe lorsque Moïse, le Messie, la gloire de Dieu, disent voilà comment vous devez faire pour l'expiation, pour le pardon de tous les péchés. Le jour de l'expiation, c'est quand Jésus meurt sur la croix et se plonge dans les bras de Saint-Joseph d'une manière sacerdotale. Glorieuse, avec tout le monde angélique qui écarte, et voilà. C'est ça l'expiation, là, tout est expliqué, si je puis dire l'expiation. Eh bien, le prêtre doit faire le sacrifice, on appelle ça une fois par an, il doit faire le sacrifice d'expiation. Alors, il y a deux, un taureau, et il y a deux béliers, deux agneaux, bon bref. Il y en a un qui est fameux bouc émissaire, enfin voilà, il y a toute cette explication. Et on voit Aaron, le premier prêtre, qui fait cette expiation, qui fait le sacrifice expiatoire, en prenant le sang de la victime, en rentrant dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, en mettant une onction de sang du côté de l'Orient, du propitiatoire, c'est-à-dire, pour nous, on sait très bien dans l'Apocalypse que le propitiatoire, c'est l'unité sponsale de l'Immaculée Conception et de Saint-Joseph dans cette même Immaculée Conception, à son surgissement dans le Saint des Saints. Et puis, cette fois, du côté du peuple. Autrement dit, l'Esprit Saint est donné, quoi. Est donné du côté de l'Orient et du côté du peuple, du côté de l'Occident. Ça rejaillit sur eux en cette source, les sept dons du Saint-Esprit, Saint-Esprit en lui-même, en Marie, le Saint-Esprit, dans ces sept dons en nous. Et après chaque moment, puis ils ressortent, toujours pareil, ils sortent. Il sort, il doit sortir du Saint des Saints, qui représente, on le sait très bien pour nous, que le Saint des Saints, ça représente la paternité incarnée de Dieu le Père, ouverte devant nous. Ce fameux, ce fameux sanctuaire, ce fameux petit point de rien du tout, dans lequel nous nous engloutissons. Parce que nous ne cherchons pas des choses immenses, mais on cherche la Sainte Famille, oui. Dans ce premier instant de la mort et de la résurrection du Christ, ce premier instant. Et donc Origène, il commente en disant, voyez, Jésus, quand il est mort, il est rentré dans le Saint des Saints, il est rentré dans le Saint des Saints du sanctuaire. Et il a mis son sang sur l'Orient, il a mis son sang sur l'Orient du propitiatoire, il a mis son précieux sang sur l'Occident du propitiatoire. Et ayant fait cela, il est sorti du sanctuaire et il est rentré dans le face-à-face. Il est rentré dans le face-à-face. Il est rentré dans le face-à-face. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Avec la nature humaine créée, c'est-à-dire sur son trône. Et on sait très bien que le trône, tout le monde ne le sait pas, mais c'est dans l'Apocalypse, Saint Jean montre que le trône, c'est Saint Joseph ressuscité. Donc ça, il a introduit la lumière de gloire, il a introduit la nature humaine avec la toute petite, immense prémisse de son classification responsable, de son corps présent quelque part. Et donc il rentre. Et il rentre dans son sacerdoce, il s'assied en Saint-Joseph, dans son sacerdoce éternel. Saint Thomas d'Aquin fait remarquer ceci, c'est que Jésus est prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisedec, lorsqu'il passe au-delà du voile de l'ascension. Il est ressuscité avant, sur la croix, il n'est pas prêtre. Selon l'ordre de Melchisedec. Le sacerdoce, on est encore dans sacerdoce lévitique. Quand Jésus meurt sur la croix. Mais il a quand même institué le sacerdoce nouveau, sacramentellement. Tout ce... Et son ce sacerdoce qui est le sien, selon l'ordre de Melchisedec, lui, il y rentre. Il n'y rentre pas sans Saint-Joseph, vous vous rendez compte. Il rentre, et c'est Origène qui fait remarquer ça. À propos du chapitre 16 du livre du Lévitique. Et Saint Jean aussi, dans l'Évangile, reprend ça dans la Grande Montée, au chapitre 17. Après avoir célébré l'Eucharistie, institué le sacerdoce sacramentel, il explique ce sacerdoce. C'est un sacerdoce victimal éternel d'amour. Et puis il va jusqu'au chapitre 17, et au chapitre 17, il explique les trois expiations qui sont dans le livre du Lévitique. Il le fait pour lui-même, il le fait pour les siens, il le fait pour le dernier Israël, et il le fait pour le monde entier. Chapitre 17, c'est la, on appelle ça l'explication, dévoilement de l'acte sacerdotal nouveau de l'Église. Et une fois que Jésus a révélé ça, il se lève de table et il part à Gethsémani. Ça se termine sur sacerdoce. Joannique, voyez ça. Tout se termine. L'Eucharistie se termine sur sacerdoce. Joannique. Voilà où Saint-Joseph nous met. Se cache lui-même. Établi là-haut. Pour permettre la révélation, la descente de ces 14 jours de l'Apocalypse de Saint-Jean jusqu'à nous. Puisque c'est la descente, on peut dire, c'est la descente de ceux. C'est le chemin de croix descendant de Saint-Joseph. Elle est glorieuse jusqu'à nous. On ne le quitte pas. Mais ce qui est très, 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 très fort, souvent on se demande qu'est-ce qui se passe dans cette demi-heure, là. qu'est-ce qui se passe dans cette demi-heure de la Pâque vers laquelle nous sommes attirés, nous courons le plus profondément que nous pouvons. Eh bien, Origène nous jette une lumière prodigieuse, c'est que le bois de la croix, qui est complètement fleuri par les trois virginitations naturelles de Marie et de Joseph, eh bien, pénètre avec la nature humaine dans le trône de la vision béatifique, et la nature humaine est entièrement nouvelle. Et du coup, le sang va pouvoir sortir, la dernière goutte de sang, la dernière goutte de sang, la dernière goutte d'eau pourra sortir, pour que le sacerdoce puisse commencer à s'exprimer dans chaque conception humaine. Ça c'est beau, vous savez, et vous voyez, on va avoir là pendant quelques jours l'évangile de Saint Jean. Alors l'évangile de Saint Jean, c'est monte comme ça vers à la rencontre de celui qui vient. Et dans cette croix glorieuse, il faut, si on veut avoir son indulgence plénière aujourd'hui, c'est le moment hein, de prendre chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Et à la lecture 6 de l'évangile de Saint Jean. Ces six premiers chapitres extraordinaires. Hein. En résumé, c'est très simple. Tout de suite, la conception, le Verbe, est devenu chair. Tout ce qui l'ont reçu, le Verbe est devenu chair. Premier chapitre. Il n'a pas été reçu chez les siens, mais le Verbe est devenu chair. C'est la conception, c'est l'expression. Tout commence avec cette conception. Que l'Apocalypse se fait descendre jusqu'à nous, la conception. La conception du Verbe de Dieu. Dans la Jérusalem dernière. Et aussitôt, il y en a au milieu de ce chapitre 1, il y a Saint Jean-Baptiste qui dit « Tournez-vous vers ça !» Il témoigne. Chapitre 1, ça, chapitre 1, c'est ça. Et aussitôt, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il témoigne quoi, Jean-Baptiste? Ben, il témoigne, il voit Jésus qui vient par là, et il le désigne. Voici l'agneau de Dieu. Il témoigne que l'agneau de Dieu, tout commence dans la conception. Dans le terme de l'Apocalypse, le terme de l'Apocalypse, c'est l'agneau de Dieu qui a déployé tous ses sorts, qui s'est révélé, et tous prosternent vers lui, et vers l'incarnation, et la mort et la résurrection, tout est prosterné sur lui pour recevoir ce terme descendant, si je puis dire. Et Saint Jean-Baptiste, ben, et Saint Jean. Et du coup, les gens, et là, ça fait 15 ans. Il avait 15 ans, 14 ou 15 ans, et voilà, il est là, donc l'agneau, ben, tout de suite, il se colle à l'agneau, il le suit. Et ça, c'est chapitre 1. Et du coup, il suit le témoignage de Jean, et c'est bien son témoignage, le témoignage de l'agneau, avec Nicodème, qui représente l'appel de Nicodème. C'est le premier chapitre, c'est extraordinaire, c'est le prologue. Tout est conçu là, quoi. Et puis deuxième chapitre, c'est les noces de Cana, Jésus monte. Et cette conception, elle s'inscrit dans la sponsalité. L'union transformante, c'est la sponsalité, c'est le mariage spirituel. Notre nature humaine est changée en vin, en ivresse, des noces inscrites dans la transfiguration de notre vie dans l'au-delà, enfin dans la signification sponsale, dans la sponsalité, dans l'union, dans cette union qui s'est réalisée de manière si puissante, si parfaite, si ultime, si débordante de gloire dans l'éternité de Marie et Joseph dans le sacerdoce joannique, dans le premier moment de la mort de Jésus. Et ça, pour ça, ça revient tout de suite, chapitre 2. Et puis après le chapitre 3, ben, puisque Jésus descend à Jérusalem pour communiquer ça à Jérusalem, mais Jérusalem ne veut pas entendre, alors il descend dans le temple, près de son père, près de Saint-Joseph, si je puis dire. Et c'est là qu'il chasse les vendeurs du temple immédiatement. Il chasse les vendeurs du temple. Allez. Et il baptise. et il baptise. Et alors du coup, Sanhédrin qui vient vers lui la nuit, et il dit tout est dans la conception, mais aussi dans la... Pourquoi ? Parce que tout ça doit... Toute la Bible, toute la Torah, toutes les nations d'Israël, toute la tradition infaillible de Moïse, et tout l'enseignement, donc tu es toi le porteur, tu y as passé toute ta vie, tu es un docteur en Israël, c'est d'être conçu d'une manière nouvelle, et de naître d'une manière nouvelle. Il n'est pas reçu dans son pays. À Jérusalem, alors, du coup, il remonte, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Du coup, il remonte, chapitre 3, du coup, il remonte vers la Galilée, et là, il sera bien reçu, dans la Sainte Famille. Mais Jésus, Marie-Joseph, Jésus est bien reçu. C'est ça. C'est dit comme ça, chapitre 3. Aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Alors il monte, et du coup il monte, et en passant, ben, il passe par la Samaritaine. Et là, il va libérer, glorifier, recréer le cœur de la Samaritaine, dans le fond des puits de Jacob, donc de Joseph. Il va dans le fond des puits de Jacob, il va recréer le cœur de la femme. Et puis il va traverser Samarie, comme c'est beau ça, chapitre 4. Et il va, et du coup il continue à monter vers la Galilée où il est très bien reçu parce que il y a eu la sainte femme. Bon, il y rentre et là, c'est l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'enfant qui agonise. Même dans un amour séparant. Il ressuscite, si je puis dire, l'enfant qui agonise. La femme, l'enfant qui agonise. Et aussitôt, il redescend à Jérusalem, parce que avec la femme et l'enfant qui agonise, il peut redescendre à Jérusalem, il sera peut-être reçu. Et alors, il va vers Saint-Joseph, vous voyez là-bas. Enfin, celui qui représente Saint-Joseph, il ressuscite, il ne le ressuscite pas. Mais ça fait 38 ans qu'il est là, cet homme, c'est l'homme, le fils d'homme qui est là, et qui est paralysé, qui crie, depuis sa conception, si je puis dire, et qui est sur la piscine, il crie dans la transgression originelle et la transgression suprême, c'est pour ça qu'il est de ce côté, dans l'aile nord du temple, là, dans la piscine aux 5 portiques. La femme, l'enfant qui agonise, et l'homme. Et cet homme, 38, c'est 19 plus 19, vous avez bien compris, 19 au carré. C'est Saint-Joseph transverbal qui le reprend et qui part avec sa civière. Et il passe dans le temple de Jérusalem avec sa civière. C'est le grand sabbat. C'est fou. Alors, et du coup, il y a cette grande, ces trois là, l'enfant, la femme, le cœur de la femme, l'enfant qui agonise, c'est l'homme. Ça représente, on voit très bien ce que ça veut dire. Saint-Jean, c'est ça. Et une fois qu'il a fait ce passage, eh bien, c'est chapitre 6, il dit, il dévoile que tout cela se... C'est la fleur du froment, de la multiplication des pains. Et il dit, je suis, et je ne suis pas du Père. La nourriture du Père, c'est moi, je suis la nourriture, et ça donne la vie au Saint-Esprit. Ça, l'Eucharistie pour vous, et pour la multitude. C'est ici le premier chapitre. D'ailleurs, il y a une espèce de montée organique, comme ça. Vers à la rencontre des qui aboutit au sacerdoce, hein, comme je viens de vous l'expliquer, qui est suggéré aujourd'hui par les lectures de matine, mise en relief par Origène. se sent appelé là. Là, on se sent appelé par sa face de manière encore plus profonde. Il peut insister pour nous appeler parce qu'on met du temps, un temps long. Parce qu'on ne décroche pas, vous voyez, de notre petit univers. Mais un petit peu de, comment dire, un petit peu de silence dans l'horizon. Et on décroche et on y va. La croix glorieuse a été le bâton de triple liste, a été emporté avec la nature humaine dans la lumière de la vision béatifique pour nous être redonnés, quoi. C'est beau, hein, cette interprétation d'Origène. Jésus le dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre à Nicodème. Hein, c'est la croix glorieuse qui fait notre conception et qui fait notre naissance. Toi, tu es maître en Israël et tu ignores ça. Tu ne sais même pas ça. Il faut naître nouveau, il faut le monde nouveau. Ça, on peut le dire. Hein. Tu ne savais même pas ça, c'est le monde nouveau qu'il faut. Et donc l'Église nous dit, c'est le monde nouveau, regardez, aujourd'hui, ce sont ces textes-là. Alors, il faut y aller, vraiment, il faut y aller. Il faut y aller, nous y allons d'ailleurs, sans aucune difficulté. Mais voyez, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette demi-heure de la croix glorieuse qui commençante? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est tout ce qu'on voit là. Comment trouver, il faudrait, mais c'est vrai ce qui s'est passé dans ces 36 heures, il s'est passé tellement de choses que c'est un petit aussi, c'est aussi qu'est-ce qui s'est passé aussi entre la dormition de Marie et son assomption. Là aussi, ça c'est une très 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 grande obligation de pénétrer là, d'y pénétrer et de voir tout ce qui s'est passé entre la dormition de Marie et son assomption. Et il y a un lien de nécessité avec cette obligation que nous avons montré entre le moment de la dormition de Jésus et sa croix glorieuse. Dans sa croix glorieuse et son entrée à la droite du Père comme prêtre éternel. On a une obligation de regarder. Je me dis, mais comment je peux savoir ça? Je ne suis pas. Mais si, tu peux le savoir parce qu'elle s'est révélée. C'est révélé. Tout ça s'est révélé. Et on essaie, l'Église, elle essaie de nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la croix glorieuse tout de même, hein, grâce aux évangiles. Voilà, aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que. Et on sait grâce à l'Ancien Testament. On sait grâce au chapitre 8 et au chapitre 16 du livre de l'Exode, qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le moment où Jésus est rentré dans le Saint-Dessin et le moment où il est sorti du Saint-Dessin comme prêtre éternel. Et c'est Origène qui nous le dit, ça. Le sang, du coup, a pu être mis par le doigt de Dieu le Père dans le propitiatoire, dans l'absorption séraphique. Et devant, à la face de tout le peuple. Donc il y a des étapes qui sont données, hein, qui sont dites, qui sont explicites et qui nous expliquent. À travers l'Ancien Testament, on va pouvoir voir tout ce qui se passe progressivement, une chose, si je puis dire, après l'autre, et qui est si grand dans le cœur de Marie, dans le cœur de l'Église catholique, dans la transformation. Qui est la nôtre, dans ce carême du chemin de croix descendant de la Sainte Famille glorieuse jusqu'à nous, que nous recevons du fond du Saint-Dessin ouvert, et pour que ça puisse venir glorifier le fond du Saint-Dessin ouvert, et que le mal qui cherchait par le trou du mur du temple, l'aile nord du temple, comme le prophète Ézéchiel l'explique. Hein. J'écoute mes chemins, on est sur un gouffre. C'est très important de vivre ça. Dieu s'appuie sur nous. Ils s'appuient sur Marie, ils s'appuient sur Joseph, ils s'appuient sur le sacerdoce Jeanne, sur le sacerdoce, sur l'église, sur les sacrements. Nous sommes les porteurs du déploiement des sacrements. Et donc il y a le temple et l'aile gauche du temple, il y a un mur, et ce mur, il y a un trou. Ils ont fait le trou, si coup-ci, mes chemins, pour pouvoir rentrer, ne serait-ce que par leur regard, vers le Saint des Saints, et l'envahir, pour abominer le Saint des Saints, la patrie des créatrices de Dieu. Mais ils se cachent derrière, honteux. Ils se cachent derrière le mur. Mais heureusement, il y a la gloire de Dieu qui investit immédiatement le temple. À cause de quoi? S'il vous plaît. Mais à cause des petits, des pauvres, des faibles, des enfants qui rentrent et qui appellent, qui rentrent dans l'éternel, le soleil, le vent qui vient de visiter, la divine volonté, qui ne prennent que cette divine volonté dans leur petitesse, dans la Sainte Famille Glorieuse, pour naître de nouveau à la Jérusalem dernière. Il y a le trou, hein, mais ils sont refoulés derrière le trou et bousculés par derrière dans la honte. Et si on faisait le trou, qu'on allait un tout petit peu plus loin, on irait, on aboutirait de l'autre côté de le temple, là, à quelques mètres, à la piscine de Bethesda, aux cinq portiques, où Jésus, après avoir ressuscité le cœur de la femme, l'enfant conçu agonisant, l'enfant, nous prie l'enfant, c'est aujourd'hui, et puis va dans Joseph, 38 ans, c'est extraordinaire, la transfiguration de Saint-Joseph, pour le relever. Bon. Ça, toutes ces choses se passent successivement. Donc concrètement, vous me direz, ça se passe comment? Concrètement, ça se passe comment? Déjà, on comprend une chose. C'est qu'on est les porteurs de ces événements qui sont conditionnés à notre foi, à notre attention, à notre silence intérieur, et à ce parcours où Dieu nous saisit. Comme la lumière de gloire saisit l'âme de Saint-Joseph Auvergne pour l'introduire dans le Saint des Saints, de la vision béatifique, le face-à-face de Dieu. Il n'a pas fait grand-chose, Saint-Joseph, en dehors du fait de recevoir Jésus dans sa croix glorieuse. Il a reçu, et il a été emporté dans le face-à-face de la vision béatifique. Ça a été pareil, d'ailleurs, pour le bon larron, je vous signale, une heure après. Eh oui, et donc on ne fait rien d'autre que de se laisser emporter. On se met dans le... on s'engloutit, on se consacre vraiment à notre Père dans le Saint des Saints qui reçoit ce chemin descendant ironique de l'Apocalypse pour glorifier, que Dieu soit glorifié aujourd'hui, c'est aussi mes semaines, et qu'il y ait la transfiguration de Joseph. Dans la transfiguration de l'Église, eucharistiquement. Et ça demande toute notre attention, notre oui, hein, c'est ça, notre abandon. On ne cherche rien qui dépasse nos forces. On n'a aucune force à terre. C'est juste se glisser tranquillement, s'endormir et avoir confiance. Et donc Dieu nous mène lui-même. C'est la cinquième demeure. C'est Dieu lui-même qui fait notre transformation, après avoir fait la transformation de l'eau en vin, dans cette disponibilité surnaturelle totale dans l'un. Après avoir ressuscité l'enfant agonisant, eh bien, il vient faire surgir dans le temple la transfiguration de Joseph. Dans le temple de notre corps originel. Alors nous sommes du coup, oui, c'est vrai, on n'est pas seulement la Bible du Père dans notre corps originel, on est dans notre corps primordial, dans notre corps en signification sponsale, on n'est pas seulement l'évangile de l'épousé, on n'est pas seulement l'apocalypse du Saint-Esprit, on est le déploiement de l'Eucharistie. Notre corps devient intérieurement la gloire du déploiement de l'Eucharistie. Pour ça, l'évangile de Saint-Jean se termine, voilà les six premiers chapitres. Et là, dans l'office de l'autre, la parole qui est donnée, c'est encore l'Exode, chapitre 19. Hein. C'est encore l'Exode, le livre de l'Exode. C'est très très riche, vous savez. Il dit, ben, vous voyez que je vous ai porté jusqu'à moi, en vous portant moi-même sur les ailes du grand aigle. Voilà, c'est joaniquement qu'on est porté par Dieu dans le fond de l'accomplissement de toutes choses dans la Jérusalem, de l'Église que Dieu veut, qu'il a créée, qui vient d'en haut, qui est là, et c'est l'heure. Alors, on se laisse transporter, enfoncer, endormir, parce que l'heure est arrivée, et on laisse toute liberté à notre liberté originelle être emportée par la liberté de Dieu, de nous porter où il veut, pendant notre raison, où il veut, dans les profondeurs de sa lumière, où il veut dans les profondeurs de sa miséricorde, où il veut dans les profondeurs de son amour, où il veut dans les profondeurs de son monde incréé, où il veut dans les profondeurs, où il veut dans les profondeurs de la Jérusalem dernière, où il veut, où il veut. Dans les profondeurs de son Église primordiale, de son principe créateur, où il veut, pour que nous en soyons les récepteurs et l'édification dans les fruits. Vous en mangerez tous les fruits, c'est la fin du prophète Isaïe, vous en mangerez tous les fruits de la vie. Voilà, l'Église, sans être vue. Et ça change tout. Alors quand Jésus est assis à la droite du Père, avec son trône, avec Saint-Joseph, dans la vision béatifique, il y a quelque chose qui s'ébranle complètement. Dans cette union entre Saint-Jean, le sacerdoce sacramentel, est actué dans l'éternité, venu dans le temps, et Marie s'y trouve une nouvelle fécondité. C'est ça, le nouvel ange Gabriel. Et à laquelle elle doit le dire oui. Voilà ce qui s'est passé dans la demi-heure qui a suivi. Et qui a fait l'ouverture du cœur de Jésus pour la dernière goutte d'eau. Il y a eu vraiment la médiatrice de toute grâce a été conçue là. Dans sa fécondité de médiatrice de toute grâce. Il s'est passé vraiment une mutation de la nature humaine de Marie et de la nature humaine tout entière à travers elle dans cet instant-là. Oui, le bâton de la croix glorieuse a pénétré à l'intérieur du ciel de la vision béatifique et dans le face-à-face vis-à-vis du Père sans voile. C'est pour ça que cette année, on est très très non seulement conscient, mais on est admiratif de voir que oui, la croix glorieuse, bien sûr, la croix glorieuse, la conception de la croix glorieuse, on est 9 mois avant les saints innocents dans cette conception de l'incarnation. Le 28, c'est ça. Le 28, on le sait, nous, en France, on le sait, puisque le 28, c'était ça. Jésus de sa croix glorieuse est sorti de l'Eucharistie. La première apparition de Jésus sur la terre depuis 2000 ans. Il y a eu l'apparition du Sacré-Cœur de Jésus à Marie, Marguerite Marie. créer ça. C'est la croix glorieuse qui fait la conception. Tout est dans la croix glorieuse. Alors on a tout entièrement conscient et on comprend que c'est la Sainte Famille dans son fond originel, dans son fond ultime, dans le lieu de la vie, qui nous inscrit dans cette ligne pure. Et que là, on pénètre et on se laisse pénétrer et on se laisse emporter. Et c'est Dieu qui nous y transporte de partout, de partout, de partout, de partout, pour que nous soyons les enfants du monde nouveau. Et que du coup, on puisse être tout proche, sans voile, de la fécondité eucharistique de Marie, décrétée par le Saint-Père, dans ses 14 derniers jours. Oui, je me lèverai, j'irai vers le Père. Ah, s'il y a 10 minutes à prendre aujourd'hui, en fonction de ce que nous venons de voir, dans ce que l'Église nous propose pour le jour d'aujourd'hui, moi, je sais pas, je proposerai la prière sacerdotale de Jésus. La prière sacerdotale de Jésus. Chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean. Voilà, de rentrer, de lire ça. La prière sacerdotale de Jésus. Et puis, on va de cette prière sacerdotale dans le fond. Il est prêtre éternel, Saint-Laurent de Melchisédek, dans la gloire de la vision béatifique, la résurrection de Saint-Joseph, il est, en comprenant ça, en pensant, en vivant, en voyant ça, en s'y enfonçant dedans. Et à ce moment-là, c'est avec ça qu'on descend, avec lui, dans le torrent du Cédron, dans le monde des Oliviers, dans le Gethsémani. Tout est accompli. 17. Voilà comment se termine ces trois fois ce troisième développement, ces chapitres là. Et alors après, ben, il y aura les trois derniers chapitres, qui les trois. Le troisième jour, il ressuscitera, donc chapitre 19 et 21 de l'Évangile de Saint Jean. Mais ce chapitre 17 là, qui nous fait pénétrer au fond du torrent du Cédron et au sommet de l'huile nouvelle, de la coupe, de Gethsémani. Et son absorption dans la passion. Mais en tout cas, chapitre 17, oui. Parce que c'est la base de départ, c'est ça. Lui, il s'est inséparé de Saint-Joseph. Qu'il a fait cette prière sacerdotale, inséparé de Moïse, inséparé. Dans le soleil et l'amour qui vient nous visiter, le soleil brûlant, l'amour éternellement brûlant en lui, du royaume, la divine volonté. Il fait cette prière sacerdotale. Et là, il va vers le Père, il va vers Saint-Joseph, il va vers la croix glorieuse, il y va. Il faut petit à petit que l'évangile de Saint-Jean nous devienne extrêmement familier. L'Apocalypse d'ailleurs, mais là, ces jours-ci, vraiment, l'Église demande, à la faisant notre indulgence plénière comme ça, ce serait beau, aujourd'hui.